Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, je vous emmène à Venise, une soirée à Venise, dans le cadre des concerts de l'hôtel Boudon. Ce concert devait avoir lieu le 9 juin, mais il a plu, oui, ça arrive à Nîmes. Et c'est donc reporté au 23 juin. Et j'ai la chance de recevoir au studio Carlos Natale. Bonjour.
Bonjour. Enchanté.
Qui est Nîmois?
Oui, je suis Nîmois d'adoption. En
d'adoption.
Fait.
Oui, oui, oui. À l'accent. Vous êtes né à Buenos Aires.
Buenos Aires, ça fait voilà. Plus. Oui.
Et vous avez. À quel âge vous avez senti que vous, votre carrière, ce serait, votre métier, ce serait la chanson?
Alors,
la chanson,
oui.
C'est péjoratif?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que oui, on chante des chansons quand même. Donc, et j'ai commencé à chanter des chansons,
ouais.
C'est ça. Alors, moi, je chante depuis tout petit, depuis que j'ai 4 ans, en fait. Et mon père joue dans un orchestre de tango en Argentine.
Mm-hmm.
Et voilà, un jour, il découvre que je connais presque toutes les chansons que chantait le chanteur de son orchestre.
C'est purement du mimétisme,
oui,
de l'imitation.
C'est comme ça qu'il, voilà, qu'il me fait prendre de cours de piano, mm-hmm. de solfège, tout petit. Mais le prof qu'on avait, le prof particulier qui venait à la maison à nous donner des cours, il me dit, Carlos, là, il y a quelque chose,
a
pas trop instrumentiste, oui, mais plutôt chanteur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter dans une maîtrise tout au début, quand j'étais petit. Et après, est arrivé à un certain moment, j'étais plutôt célèbre en Argentine, j'ai gagné des concours à la télévision aussi. Et j'ai eu l'idée et le vouloir de devenir chanteur professionnel, en fait. Et c'est comme ça que mes parents m'ont trouvé un prof de chant et qu'il était chanteur lyrique. Et parce que jusqu'à ce moment-là, jusqu'à l'âge de 15 ans, je ne connaissais
pas pensé du
non,
tout.
Pas du tout, parce que dans ma famille, c'était pas.
Oui, c'était le tango, les
voilà,
chansons plus
oui,
populaires.
Oui, c'était ça, le pop. Et voilà. Donc, du coup, je suis grandi dans cette. Avec cette. Voilà.
Et c'est pas gênant, je veux dire, c'est pas un obstacle.
Tout,
c'est
pas du tout,
au contraire,
pas du tout.
Ça
sauf que je ne connaissais pas, sauf, oui, quelques passages à la télévision, quelque chose comme ça. Et du coup, mon prof m'a fait le premier cours, et c'est là qu'il m'a dit, Carlos, écoute, même si tu aimes bien chanter du tango, et de la musique, de la variété, tout ça,
t'as
mais sache que, oui, tu pourrais devenir un chanteur lyrique.
Surprise.
Voilà, surprise. Donc, il m'a proposé de faire un travail vraiment très, 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 avec beaucoup de discipline pendant 2 ans. Il m'a préparé pour rentrer dans l'Académie du Théâtre Colón de Buenos Aires.
Et c'était une contrainte pour vous? Ça vous demandait tout de même beaucoup de concentration ça...
Ah oui, non, mais surtout quand on a 15 ans. Donc il m'a dit, écoute, arrête de sortir, arrête avec l'alcool. Là, je sortais, mais oui, c'était la vie d'un adolescent, en tout cas.
Oui.
Mais
vous
me
sentiez
dit, okay.
assez motivé tout de même,
oui.
vous, ça vous...
Oui, parce que, alors j'ai commencé, il m'a dit, d'ici, moi, je me souviens, c'était le jour, la veille de mon anniversaire, ça. Et il m'a dit, écoute, on est en août... On va voir en décembre tu vas me donner la réponse si tu veux vraiment continuer ce parcours ou tu veux continuer avec ce que tu fais.
Oui, ça supposait tout de même quelques sacrifices ou quelques...
Oui, évidemment, parce que alors j'ai dû commencer à travailler, à étudier des langues, à prendre des cours de théâtre aussi. Donc, c'était pas que le vocaliste au cours de chant une fois par semaine. Donc, je prenais 3 fois par semaine des cours de chant et c'était comme ça et... J'ai vu qu'après 3-4 mois, la voix avait évolué d'une façon que je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé.
Ouais. Et le répertoire vous plaisait bien parce que ça change tout de même des choses.
Ah mais oui, non, la première chose que j'ai entendue, c'était Miguel Fleta. Miguel Fleta, c'était un chanteur d'opéra espagnol, en fait. Et mon prof m'a fait écouter un air. Et après, tout de suite, il m'a dit, écoute, là, je t'ai fait écouter quelqu'un d'une autre génération. Maintenant, on va écouter quelqu'un de nos temps. Il m'a fait écouter le Juan Diego Flores, que c'était ses débuts. à la Scala pendant cette époque-là. Et en fait, je me dis, je vais chanter comme ça. Je me suis dit.
Et puis c'était motivant parce qu'il était jeune, donc vous disiez, il y a une
possibilité.
Alors, Juan
Diego, à l'époque, il avait 19 ans, une chose comme ça. Et
c'est possible.
20 ans. En plus, c'était à peu près mon timbre de voix. Du coup, je me suis vu identifié tout de suite. Mm-hmm. Je me suis dit, oui, je veux faire ça.
Voilà.
Et en plus, dans l'opéra, j'ai pu trouver tout ce que j'aime, c'est-à-dire la comédie, la musique et le chant. Mm. J'ai pu mettre ensemble tout dans un monde magnifique que c'est l'opéra.
C'est vrai qu'un chanteur, on n'a même pas dit que vous étiez ténor.
Oui, voilà.
Un chanteur, il ne fait pas que chanter, vous l'avez dit. Il faut aussi jouer. Et je trouve qu'on demande, quand on voit les opéras d'il y a même 40 ans, où les chanteurs étaient très statiques, je trouve qu'on vous demande maintenant de plus en plus de performances, chanter parfois. Enfin, il y a le récital où vous êtes.
Oui, évidemment, le récital, on est un peu plus. On est habillé en smoking, en frac, il n'y a pas toute la mise en scène, en tout cas.
Mais sur la scène, il faut bouger, il faut évoluer, il faut...
Ah oui, évidemment.
Avec l'orchestre, avec les partenaires. Vous préférez quoi, le récital ou...
Non, je préfère l'opéra.
L'opéra.
Oui, parce que dans l'opéra, on transite en fait tous les états d'âme du personnage.
Oui, il y a une histoire.
Il y a une histoire, il y a une évolution de personnage aussi. On arrive, on chante un peu, après on chante en duo, on chante en trio, donc il y a toute une évolution.
Ça permet de se mettre un petit peu dans la psychologie du personnage.
Que le récital, on doit se préparer 5 secondes avant de chanter, on se met là tout de suite et on va et on change tout de suite d'atmosphère à chaque morceau qu'on chante.
Mais il y a tout de même une gestuelle, vous ne pouvez pas chanter totalement immobile, vous traduisez par les visages, par les expressions.
Mais oui, parce que si on chante un air d'opéra, c'est une histoire.
Ouais.
Si on chante une chanson, une mélodie, c'est parfois une poésie, c'est parfois un extrait d'un roman, donc voilà. Évidemment, il y a toujours quelque chose de sensible derrière la musique. Donc, voilà. C'est ça notre travail en tant que chanteur.
Partager les émotions. Et donc, le concert là, du 23 juin, c'est une soirée à Venise. Et on va commencer peut-être par un air de Donizetti. Vous chantez avec le quatuor Les Vols, que vous ne connaissiez pas. C'est une première.
C'est la première fois. C'était un grand plaisir de faire ce partage musical avec eux.
Donc, on va en reparler. Mais là, nous écoutons Donizetti. Vous avez choisi peut-être l'air le plus connu.
Mais oui, c'est l'air, l'air icône pour les ténors, l'air de l'opéra L'Elysir d'amour, Una furtiva lagrima.
Alors avec Carlos Natale, nous en étions au début. On va franchir un peu l'océan, parce que à quel moment vous êtes venu en Europe ?
Alors, La première fois que j'ai chanté en Europe, c'était en France, et c'était en 2003, et au Festival d'automne de Paris. En fait, il y avait un partenariat entre le Théâtre Colón de Buenos Aires et le Festival d'automne de Paris, et par lequel on a fait une... C'était une création. L'opéra s'appelait Richter. C'était l'histoire d'un scientifique allemand qui allait en Argentine à faire des recherches. Et voilà, et moi j'ai participé, j'étais l'un des solistes de cette représentation, de cet opéra. Du coup, c'était ma première fois.
Émue, stressée.
Très stressée. Très, très, très stressée parce que c'était la première fois en Europe, en France, donc en plus avec un opéra contemporain, que c'est toujours un peu un défi.
Oui.
Parce que le public ne connaît pas, donc même c'était un grand, grand, grand succès.
Quelquefois, un peu de réticence, ça, le contemporain. Bon, oui, on va ça reparler dépend des, oui. des Volks qui font un festival justement pour faire connaître des compositeurs contemporains, mais il y a toujours un petit peu de réticence tout de même.
Oui, ça dépend déjà des compositeurs. Ça dépend de l'esthétique du compositeur et ça dépend du public aussi parce que pas tout le public est alors un public qui n'est pas éduqué avec qui n'a pas un parcours d'écoute de la musique classique, peut-être ça peut être un peu difficile parfois d'écouter certaines compositions contemporaines. Par contre, si c'est un public qui a commencé déjà, qui connaît bien l'évolution musicale, il va avoir une autre ouverture d'esprit.
Et vous, le contemporain, vous plaît autant que le traditionnel, que le classique
Ça dépend. Et moi, j'ai aussi toujours... J'ai fait pas mal de créations d'opéra.
Ouais.
Et pas que d'opéra, hein, des chansons aussi, des mélodies. Mais moi, j'ai choisi. Parfois, il y a beaucoup de compositeurs qui m'envoient des choses. Ils me disent, Carlos, est-ce que tu aimerais chanter ça? Et moi, je le vois, je dis non. Ça ne colle pas du tout avec moi, ça ne colle pas avec ma voix, ça ne colle pas avec ma personnalité vocale.
Est-ce que vous ressentez ou vous ne ressentez rien
Donc, mais c'est la richesse de pouvoir travailler avec un compositeur. Parfois, ça arrive aussi. Ça m'est arrivé, par exemple, un opéra que j'ai fait à Genève, que j'ai fait à l'opéra comique. Et le compositeur avait écrit sa pièce. Et voilà. Et après... Il était là pendant toute la répétition et nous on lui disait non, écoute, ça marche pas, ça marche pas. Du coup, il changeait des choses et après le résultat final était magnifique.
Ben, donc, mais c'est toujours beaucoup de travail et puis je vous l'avais déjà dit, d'ouverture d'esprit. Hein, c'est-à-dire le travail plus l'ouverture d'esprit.
Oui.
Alors, cette rencontre avec le Quatuor des Volks, donc, qui est composé donc, d'un pianiste, de deux violons.
Oui.
Non, d'un violon, d'un alto et d'un violoncelle.
Alors, oui. Non, ce sont deux violons.
Deux violons, pardon.
Oui, violon premier, violon deuxième, alto et violoncelle, plus le piano.
Plus le piano. Oui. Alors, comment s'est fait cette rencontre avec les Volks?
Alors, tout au début, on s'est rencontré avec le pianiste. Parce que dans ce programme-là, il y a... Alors, c'est tout un programme dédié à la musique italienne.
Oui, et il y a Donizetti,
il y a Donizetti, il y a Verdi, il y a Puccini, il y a Leoncavallo, il y a Mascagni, il y a Giuliani... Et Tosti.
Je sens qu'on va se régaler.
C'est un parcours. On a fait vraiment un joli programme.
Comment vous choisissez? C'est parce qu'il faut enchaîner, c'est les ambiances,
alors,
c'est triste, c'est gay.
Exactement. Alors, au moment, vu que j'étais l'unique chanteur, la première chose à tenir en compte, c'est ma tenue pendant le spectacle. Et parce qu'on ne peut pas chanter, la voix, il faut que ça repose pendant un instant, donc il faut avoir une évolution aussi dans le programme. On ne peut pas commencer avec une chose contemporaine, par exemple, et après passer à Mozart ou à quelque chose. Non, il y a la voix a besoin, et comme les instruments de cordes, etc. Donc là, j'ai fait une première proposition à Carole, et je dis, écoute, moi, au moment que je prépare un concert, je pense... Les choses que je pense que peut avoir un sens musical, mais je pense, la première chose que je pense, c'est que je pense toujours au public. Comment dire bonjour au public, comment lui dire, ok, maintenant on est dans une transition et maintenant on arrive à la fin.
Le mettre dans l'ambiance,
exactement.
L'emmener avec vous.
Oui, ouais. Surtout parce que tous les textes de ces morceaux sont en italien.
Oui.
Pas tout le monde parle l'italien.
Ouais.
Donc même s'ils sont des...
C'est des morceaux très connus où je pense qu'on connaît un petit peu.
Oui, il y a deux ou trois qui sont un peu moins connus, si on veut.
Ouais.
Mais voilà.
Oui, donc vous le préparez. Il y a toute une préparation psychologique. psychologique.
Oui.
Mais on a passé donc un Donizetti très connu, mais vous avez choisi, et c'est très bien, parce que ça montre d'autres choses. Hein. On ne va pas rester que dans le connu, hein. Il faut former le, l'oreille de nos auditeurs. Oui. Vous avez choisi Le prisonnier du Caucase. Alors, j'avoue que je ne connais pas, mais vous me dites qu'il n'est jamais joué.
Alors, c'est un opéra que j'ai découvert il y a... Là, l'enregistrement que vous allez passer, c'était à l'Opéra de Nantes, il y a un an et demi, deux ans, chose comme ça, que j'ai fait pendant un récital. Et que le directeur de l'opéra me dit, Carlos, écoute, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose d'un peu moins connu. Et du coup, dans ce concert-là, j'ai mis un autre morceau, mais j'ai trouvé ce morceau-là magnifique. Couy, c'était un compositeur...
C'est lui, Couy.
Qui n'est pas très connu, en fait... Qu'il a beaucoup composé. Alors, l'original de, ces, de cette pièce-là, de cet opéra, c'était écrit en russe, en fait. Mmh. Mais après, il a fait la traduction en français lui-même.
D'accord.
Et voilà, c'est un morceau magnifique, lourd, parce que c'est le moment où le prisonnier se trouve dans sa prison et sait déjà que ça va être la fin. Que c'est la fin. Et du coup, voilà, il parle un peu de ses amours, elle parle de son espoir, elle parle de tout ça. Et je trouve que c'est un morceau très intéressant à découvrir.
Eh bien, merci beaucoup de nous faire découvrir donc Le prisonnier du Caucase. Sur Radio Alliance Plus, nous continuons ce voyage musical et vous avez remarqué que l'émission s'appelle Une soirée à Venise, mais on voyage aussi comme vous d'ailleurs, Carlos. Vous êtes par Mons et par Vaud, j'ai l'impression.
Ce n'est
pas une impression quand on voit votre
site. C'est la réalité, oui.
Mais c'est merveilleux pour vous parce que si vous avez démarré donc en 2003, vous m'avez dit
la première fois que j'ai chanté sur le plateau, c'était en 2000. Oui.
Donc,
et j'ai chanté un tout petit rôle dans La Petite Reine Russe de Jana Tchek. Ça, c'était mon début au Théâtre Colón de Buenos Aires.
Et alors après, vous n'arrêtez pas et c'est une joie permanente. Vous avez dit, vous choisissez tout de même ce que vous faites.
Oui.
Racontez-nous un peu, entre guillemets, votre vie professionnelle, votre...
Oui, alors la question des voyages, je crois que c'est l'une des choses les plus belles de mon travail, en fait.
Ouais.
Parce que connaître des endroits et connaître les cultures de chaque pays, pouvoir partager, quand on part en production, on reste normalement un mois et demi.
Mm-hmm.
Donc, pouvoir partager avec les gens, pas seulement de connaître des collègues, des nouveaux collègues tout le temps. Donc ça, c'est l'une des parties les plus riches, je crois, de ma profession.
Vous parliez des langues, il fallait apprendre beaucoup de langues. C'est vrai que... Bon, vous, votre langue d'origine, enfin maternelle, oui.
C'est l'espagnol et l'italien.
Et l'italien. Donc, oui, vous aviez déjà un bon acquis.
Oui, oui, oui.
Mais alors après, pour l'allemand, ça doit poser des problèmes. Le français...
Oui, alors c'est une chose qu'on doit...
Ça fait partie des études.
Oui. Mmh. Alors, comme on étudie la musique, on doit étudier des langues, c'est l'unique chose. Mmh. Parce que autrement, on peut chanter quelque chose, mais il n'y aura pas l'interprétation, ouais, si on ne sait pas ce qu'on est en train de dire.
Ouais, ouais.
Et ce n'est pas, ça suffit pas de savoir la traduction.
Ouais, et puis d'apprendre en phonétique. Moi, je repère tout de suite les chanteurs, oui, qui ne savent que phonétique. D'ailleurs, on comprend pas.
Oui. Ça m'arrivait, par exemple, quand je chantais pas mal en tchèque aussi. Mm-hmm. Là, oui, j'ai dû le faire forcément pas à niveau phonétique. Et là, on est toujours un peu limité.
C'est plus difficile.
Oui, oui, oui.
Dans les opéras français que je vois dans les retransmissions au cinéma du Métropolitain,
oui,
quand il y a un Français qui chante un opéra français, ça s'entend tout de suite.
Oui, ça s'entend tout de suite, oui.
C'est pas du tout un reproche. Et vous, quelle est la langue que vous préférez? Alors, l'espagnol et l'italien, peut-être?
Mais pas l'espagnol, l'italien. Et l'espagnol est une langue trop ouverte pour chanter, donc ça aide pas beaucoup à la voix.
Ah ouais.
Mais l'italien.
Trop ouverte, ça veut dire.
Et c'est là, on rentre dans un côté strictement morphologique.
Bon.
Mais voilà, c'est comme le français, par exemple, qui est une langue très mis dans la gorge, on peut dire entre guillemets. L'allemand, voilà, il y a d'autres caractéristiques. Du coup, pour moi. Et
donc, laquelle vous préférez chanter ?
L'italien.
L'italien.
Oui. Le russe aussi est une très belle langue pour chanter.
Mm-hmm.
Et ce sont des langues qui sont déjà très musicales. Et la langue parlée est déjà très musicale parce qu'il est plein de voyelles.
Mm-hmm.
Et du coup, ça crée de la musique. Et ce n'est pas par hasard que l'opéra est né en Italie.
Et bien
donc,
évidemment.
Donc, il y a...
Donc, c'est bien évidemment que vous avez choisi une soirée à Venise.
Oui.
Mais alors, on continue notre découverte et vous avez choisi comme troisième extrait une sarsuela.
Oui.
Alors, décidément, vous êtes très éclectique. Hein, c'est
mais oui, écoutez, alors, ça, c'est par rapport à ma formation musicale et ça, c'est par rapport aussi à ma voix. Et je suis ténor lyrique. J'ai commencé comme ténor lyrique léger. Ça, pour les gens qui ne connaissent pas très bien la typologie des voix, le ténor lyrique léger, c'est toujours le jeune. C'est la voix la plus aiguë de
l'adolescent, de la presque un petit peu.
Oui, mais c'est la voix qui arrive, qui est toujours dans les contrutes.
Ah, d'accord.
Oui,
okay.
Voilà.
C'est je veux dire qui est plus de la jeunesse, non?
Oui, parce qu'on on interprète toujours des personnages, des adolescents. Voilà.
Oui, c'est ça, oui.
Et ça, c'était tout mon début. Pendant les premiers 15 ans de carrière, je chantais tous ces rôles. Là, de le prince charmant de Cendrillon, et voilà, etc. Maintenant, je suis plutôt sur le ténor lyrique, et c'est-à-dire que je peux me permettre de chanter d'autres compositeurs comme Verdi et Puccini, qui sont une autre. Ont besoin d'une autre couleur, d'une autre rondeur dans la voix. Et d'un autre volume aussi.
Oui, et puis en vieillissant, tous les chanteurs le disent, ils jouaient le rôle du jeune homme, et puis 40 ans après, ils vont jouer le rôle du grand-père.
Oui, 70 ans, je chanterai le rôle de Prince Altum, le père de Turandot, voilà.
Ouais. Mais on ne se lasse pas, c'est ce qui permet justement d'avoir une longue carrière et d'apprendre et d'évoluer,
c'est l'évolution, c'est comme un comédien, en fait.
Alors la Sarsuela, elle est de Guerrero, et elle raconte quoi?
Alors, c'est Sarsuela là, en fait, où il parle l'air qui chante le personnage, s'appelle Flor Roja, en fait. Et lui, il parle de cette fleur qui le fait souvenir toujours à son amoureuse. Et voilà, le parfum qu'il ressent et tous les sentiments qu'il a chaque fois qu'il est à côté de son amour. Voilà.
Bien, merci Carlos Natale de nous avoir donné la possibilité d'écouter 3 extraits, de vous écouter donc à l'hôtel Boudon, dans les concerts de l'hôtel Boudon. Il va y avoir une très belle... programmation. Voilà. Mm-hmm. Il va y avoir une très belle programmation, mais de jazz, de lecture. Et là,
oui, ça va être très varié.
Très varié. Oui, oui. C'est toujours à l'extérieur, c'est un cadre important. Je crois que oui. Le cadre, c'est Hôtel Boudon, là, vous sortez de répétition.
Oui.
C'est inspirant.
Ah, mais oui, beaucoup, beaucoup, parce qu'on a pensé une chose. Alors, surtout, au moment de choisir le répertoire aussi, pourquoi on a choisi une soirée à Venise et pourquoi on a choisi ces morceaux? Parce que tous les morceaux qu'on va interpréter, sauf les deux morceaux, les deux airs d'opéra que je vais chanter, et tout le reste, ce sont des morceaux qui ont été écrits, composés, pour être joués dans des salons. Donc, on appelle la musique des salons. En fait,
et là, ça, le salon, ça sera la façade extérieure magnifique.
Ça sera la cour, en fait. Avec cette façade, voilà, c'est un endroit magique, en fait.
Alors, après Nîmes, où vous avez un pied-à-terre, on va dire, entre deux vols d'avion, vos projets immédiats pour l'été, vous devez être très...
Alors, pour l'été, après, je serai à Orange, au Corrigi d'Orange, pour la Tosca. Ça sera au mois de juillet. Après, en août, je vais faire une tournée de concert en Italie, au nord, à Venise et à Jesolo, que c'est au nord de l'Italie. Après, 15 jours de vacances. Et après, je pars à Buenos Aires pour chanter l'Orphée aux Enfers d'Offenbach. Au Théâtre Colón. Après, ça va continuer à Nantes avec la Traviata. Et je serai le 10 décembre à l'Odéon, ici à Nîmes.
Ah, noté, 10 décembre,
oui, 10 décembre, oui. Et avec le Festival Le Volk, que j'interpréterai des extraits des Cyprès de Dvorak, qui sont magnifiques.
Et cette année, c'est les... plein feu sur
Dvorak,
sur la Tchécoslovaquie.
Oui, donc c'est aussi magnifique, et ses poésies aussi magnifiques.
Bon, donc nous nous reverrons, Carlos.
Mais oui, sans doute, sans doute, ça me fait toujours plaisir depuis que je suis à Nîmes, voilà, d'être en contact avec le public nîmois.
Voilà. Merci à vous et bel été. Alors.
Merci, de même.
Avec les gens.